France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans À la Régulière, l'émission de toutes les cultures. Ici on parle musique, cinéma, internet, société, bref, tout ce qui bouge, tout ce qui nous raconte. Et ce soir, on reçoit une artiste qui fait danser les consciences. Depuis ses débuts, Suzanne a fait de la scène un exutoire, de la pop un manifeste et des mots, une arme douce mais précise, engagée, sincère, viscérale. Elle chante le monde tel qu'il est, mais toujours avec l'énergie de celle qui veut le changer. Après deux premiers albums, elle est revenue avec Millennium, un disque plus ample, parfois sombre, où se croisent les questions d'identité, d'amour, de technologie et d'avenir. Un album qui parle du vertige de notre époque, de la solitude connectée, de la force qu'il faut pour rester soi quand tout s'accélère. Suzanne, c'est une performeuse, une autrice, une voix générationnelle, quelque part entre l'urgence de Diams et l'hybridité de Stromae. Et ce soir, elle est avec nous pour parler de ce nouveau chapitre, de ce qu'il dit d'elle et peut-être un peu de nous aussi. Bienvenue à Suzanne, à la régulière.
France Inter. À la régulière. Mehdi Maizi.
Bonsoir Suzanne.
Bonsoir Mehdi.
Comment ça va?
Écoute, bien, hein, bien installé.
Ça va, t'es bien ici?
On est super ici, merci pour l'invite.
Avec grand plaisir, j'ai dit tu es là parce qu'il y a un troisième album qui est sorti. Tu seras en tournée dans toute la France avec une dernière date au Zénith de Paris le 21 mars 2026 qui va conclure cette tournée.
Enfin, exactement.
Oui, prochain, c'est ça, en
2026. Le premier Zénith, le tout premier. Donc,
le tout premier de ta vie?
Ouais, le tout premier de ma vie.
Incroyable, qu'est-ce que ça représente?
Bah, je pense des années à rêver de ça, à travailler pour, essayer de le remplir ce zénith.
Ouais.
Et voilà, c'est une espèce de marqueur de temps aussi. C'est le travail à un moment donné, je pense, j'espère.
Est-ce que justement, quand on... Parce que toi, t'as quand même une réputation d'être une artiste qui est forte sur scène. Quand même.
Écoute, j'y vais en tout cas sur scène avec plaisir. Ouais. J'essaye de tout donner, c'est-à-dire dépasser le trac déjà, parce que je cache pas.
T'as encore ça?
Mais je pense que tout le monde l'a, j'espère, non?
Je sais pas.
Non, je pense qu'il faut être nourri de trac, il faut être nourri de doutes constamment.
Ça veut dire qu'on y tient encore, qu'on est encore concerné peut-être?
Je pense que les choses qui nous font peur, c'est les choses qu'on veut vraiment.
Ouais.
Donc tant que j'ai peur, moi je me dis c'est que c'est le bon chemin.
T'as commencé, on connaît un peu ton parcours, mais peut-être pour le rappeler pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, t'as ton premier rapport à la musique, j'ai l'impression que c'est la danse. Finalement, t'as fait un conservatoire de danse. Comment la danse aujourd'hui a encore peut-être un lien aujourd'hui avec toi, avec ton rapport à ta musique et peut-être aussi à ton rapport sur scène?
Je pense que j'aime quand la musique est physique, tu vois, c'est-à-dire j'aime la musique qui fait lever. Je peux retrouver ça dans l'électro, je peux retrouver ça dans le rap aussi, mais dans la chanson française aussi. En fait, j'aime quand il y a ce truc où la musique tout à coup elle te laisse pas le choix, quoi. Elle fait un peu lever les foules. Donc il peut y avoir ça un petit peu dans mon son, enfin en tout cas j'ai des prods un peu costauds comparés à mon gabarit, tu vois.
Justement, je parlais un peu d'hybridité dans l'introduction, je citais Stromae parce que c'est vrai que c'est aussi une comparaison qu'on a beaucoup faite, peut-être notamment au moment du premier album, et puis c'est vrai que je pense que peut-être mieux que personne sur la dernière décennie, il a représenté ça, le côté, on sait pas trop ce que c'est, il vient du rap, mais aussi de la musique électronique, et puis il y a vraiment un truc de chanson française, quelque chose que tu incarnes aussi comme d'autres artistes. Est-ce que finalement vous n'êtes pas cette génération-là, la génération sur laquelle on a peut-être plus qu'avant du mal à mettre une étiquette parce que vous êtes le produit de plein de choses très très différentes en fait. Toi on sait que t'as autant écouté Diams que Barbara, et ça finalement c'est la première génération d'artistes qui est peut-être autant métissée dans ses influences que vous.
C'est une bonne question parce que le côté hybride, je pense qu'il y a de plus en plus d'artistes hybrides et merci pour les références parce que c'est de très beaux artistes, mais c'est rigolo parce qu'il y a de plus en plus d'artistes hybrides et en même temps on est de plus en plus classifié, je trouve. Tu vois, on a du mal à savoir où me mettre, en fait. Que ce soit dans les playlists, que ce soit dans les radios. Enfin, où est-ce qu'on la met, celle-là? Tu vois, elle nous fait un peu de chanson française, un peu d'électro, en même temps, il y a un peu de rap. Où est-ce qu'elle est, quoi, tu vois? Et souvent, on nous demande, c'est quoi ta musique en trois mots? Tu vois, faut toujours beaucoup définir les choses. Et voilà, mais je pense qu'avec le temps, on va comprendre que la musique se nourrit de tout, de mélange et de tout ça. Donc, moi, à la fin, j'espère faire du Suzanne.
Mais ça, c'est un point intéressant parce que tu sais, le grand fantasme d'Internet et des plateformes de streaming, c'est que justement, tous les artistes peuvent mettre leur musique à disposition et que tout peut être écouté. Mais finalement, est-ce que les plateformes et les algorithmes, elles n'enferment pas un peu plus les artistes? Parce que justement, par rapport à avant, on doit vous mettre dans des cases, tu dois être dans une playlist électro-chill ou dans une playlist rap pour faire du sport. Enfin, finalement, il y a une promesse d'exhaustivité qui n'est pas qui est dur à tenir avec les algorithmes et les plateformes.
Bah, franchement, même pour les consommateurs, parce qu'à la base, c'est adressé aux consommateurs, ces cases. C'est-à-dire, ouais. tu vas écouter quelque chose et vu que ça, c'est censé te plaire, ils vont te proposer des choses qui y ressemblent fortement. Et l'autre fois, j'entendais un copain qui me disait « J'en ai marre parce que mon algorithme, il m'emmène que sur le même genre de son. Ouais. J'écoute que le même genre de son. » Et il ne peut pas découvrir. C'est vrai que ce n'est pas une époque où la découverte est vraiment facile, parce que quand tu entres dans le truc de « j'écoute ça, t'écouteras que ça ». Et du coup, pour les artistes qui ont du mal à être classés, il faut arriver à choper les gens un peu autrement.
Exactement. Alors, pour les personnes qui n'ont jamais écouté encore Suzanne, il y a eu plusieurs morceaux. Peut-être qu'on peut dire que ça commence vraiment avec un morceau qui s'appelle « La flemme ».
Je te présente ma copine La Flemme, je la connais depuis le lycée. On dit que c'est une fille à problème, qu'elle ne fout rien de ses journées. Quand je me traîne, c'est parce qu'elle m'entraîne à ne faire que procrastiner. Demain, j'aurai plein de trucs à faire, des trucs d'hier que j'ai pas fait. La flemme. Je traîne avec La Flemme.
Est-ce que ce morceau, c'est un peu, non pas le point de départ, c'est pas ton premier morceau, mais est-ce que c'est là où il se passe quelque chose, où tu sens aussi que peut-être tu prends ça un peu plus au sérieux, tu dis qu'il peut peut-être, il y a peut-être une carrière pour toi derrière tout ça?
Franchement, on n'est pas là. Quand je réécoute ce morceau, je me dis, mais c'est fou, parce que c'est un de mes premiers morceaux. Franchement, j'ai écrit L'Insatisfait, c'est le premier à être vraiment sorti.
Ouais.
La Flemme a suivi, j'étais serveuse dans un resto quand j'écrivais ces sons-là. Et je me revois les écrire très naïvement en pensant que personne n'allait écouter ça. Donc il n'y avait pas de projection de grande carrière, de grande tournée ou de je ne sais quoi. J'entends, et même là je me dis il y a des maladresses, il y a plein de choses. Et en même temps c'est ça qui est trop mignon, c'est l'élan quoi. C'est l'élan, tu vois, quand j'entends ça, j'entends ma voix qui a encore un peu changé. Mon accent du sud qui est très présent, qui est encore un peu là. Mais voilà, je regarde ça avec un peu d'émotion et je me dis ouais, c'était le début, il faut toujours un début à tout quoi.
Ouais, bien sûr.
Ouais.
Est-ce que t'as du mal à réécouter ça aujourd'hui, ça te
ouais.
semble...
ouais. Ouais, je pense. Est-ce que les artistes aiment bien écouter leurs anciennes chansons? Peut-être qu'il y en a certaines.
T'es tout le temps en mouvement en fait, donc il y a un truc où.
Bah, tu cherches une espèce d'exigence aussi dans ton son. Vu que tu le cherches constamment, ce son parfait entre guillemets, je pense que je vais dédier ma vie, je l'espère, à chercher ce son parfait entre les mots, entre tout ça. Bah, tout ce que j'ai fait avant, je me dis toujours, ça aurait pu être mieux. Je sais pas si c'est normal, mais j'espère que ça l'est, ouais.
Il y a eu un morceau aussi qui a... Alors, il y a eu deux albums, hein, je l'ai dit, c'est le troisième album qui vient de sortir, Millennium. Il y a un morceau à l'époque qui avait notamment été censuré par YouTube.
1000 degrés dans la pièce, je teste, me presse de trouver le bon geste en rond, je cherche. Dans mes pensées, tu me laisses. Sur ma fin, je reste. Plus que je me fais les fumées.
Donc c'est le titre Clit is Good, qui a été un... Ouais, qu'on a beaucoup parlé à l'époque. Comment t'as vécu cette censure? Parce que là encore, c'est une censure de ces plateformes, quelque part, tu sais, qui prônent beaucoup la liberté de diffusion, etc., et qui finalement a été choquée par un morceau comme ça.
Bah, qui a été choqué, finalement, c'est les algorithmes YouTube.
Exactement,
quoi. Tu vois, c'est même pas.
C'est les robots.
Ouais, c'est les robots qui ont été choqués. Je me dis, c'est bizarre, les robots, parce qu'ils laissent passer des trucs où c'est OK. Mais quand tout à coup, on parle de plaisir féminin, quand c'est une femme qui parle de ça, qui montre à l'image, qui suggère, parce qu'on n'a rien montré du tout, tu vois, ou un téton qui traîne sur Insta, là, c'est fini, quoi.
Ouais.
T'es sûr d'être censuré. Moi, franchement, je m'y attendais pas. Tout le monde me disait, mais si, quand même. C'était sûr, non, franchement, je crois qu'on vit quand même dans une société où on peut parler de plaisir féminin. Et je trouve que cette chanson, elle a été un petit peu réduite à ce fameux plaisir féminin. Je parle aussi du fait que le corps des femmes n'a été montré dans son entièreté qu'à partir de 2017 dans des livres de SVT. Donc les filles ne connaissent même pas leur propre corps. Aujourd'hui, tu demandes à une fille de dessiner une vulve. Moi-même, je ne suis pas sûre d'arriver au bout du dessin parce qu'on n'a pas assez été vraiment informé sur tout ça, tu vois. Donc je parle de plaisir féminin, je parle d'une partie du corps et ce clit, c'est pas passé quoi. Pourtant c'est une partie du corps féminin, bon, c'est pas censé être censuré.
Bien sûr, ouais. Mais est-ce que aussi t'as le sentiment, mine de rien, malgré, alors ça c'était l'aspect négatif, que t'arrives aussi à une période où il y a de plus en plus d'artistes féminines qui parlent de ça, qui peuvent, non pas qu'elles ne pouvaient pas en parler avant, mais quand même c'était compliqué, etc. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, ce discours-là, en tout cas, il existe davantage que dans le passé. Je ne sais pas si tu as l'impression qu'il y a, vous êtes une forme de vous êtes plusieurs là-dedans.
Bah, je pense que les filles d'aujourd'hui arrivent peut-être un peu mieux à exprimer tout ça. À l'époque, je veux dire, une fille qui parlait de sexualité, déjà, tu vois, tu arrives à la puberté. c'était assez rare, même entre nous, de en parler, ou très mal vu, ouais. C'est-à-dire, c'est quoi cette meuf, quoi, qui parle de sexualité, alors que les gars, t'arrives à la période de la puberté, c'est limite très normal d'en parler, de l'exposer, même cette sexualité qui commence à s'épanouir. Nous, en tant que filles, on est quand même dans un long silence où démerde-toi, on connaît pas notre corps, ni nos règles, ni nos... Enfin, tu vois, y a tellement de choses aujourd'hui, je vois sur Insta, il y a des comptes qui fleurissent et je me dis, les gamines d'aujourd'hui, elles ont accès à plus de choses que nous et du coup, elles sont plus libres aussi. Ouais. Et je pense que dans leur rapport aux hommes ou peu importe... il y aura peut-être un truc plus égal sur le plaisir aussi, tu vois, sur le rapport, et je pense que tant mieux pour nous tous.
Complètement. Sur ton dernier album, Millennium, t'as une collaboration avec un artiste,
ouais.
Rap, il s'appelle Youssoupha.
Pas des moindres.
Pas des moindres, ouais. Je pense qu'on écoute un morceau de son dernier album, Amour Suprême, dont le titre est évidemment une référence à l'album mythique de John Coltrane, Love Suprême. Youssoupha, il livrait un morceau magnifique dédié à sa fille et plus globalement aux femmes, je sais que tu l'aimes. Le morceau s'appelle Dieu est grande, et on l'écoute tout de suite.
Moi je suis le genre de père un peu à l'ancienne. J'ai connu ta mère avant d'avoir une vie. J'ai eu un garçon mais dans ma tradition, la vraie bénédiction c'est d'avoir une fille. Alors ma princesse, suffit que t'apparaisses pour que le temps s'arrête, 1000 mètres à la ronde. Dieu est infini et je le remercie de m'avoir choisi pour être ton daron. Imane. N'écoute pas les peurs et les beaux parleurs moralisateurs, leur cœur est minime, ils ont cette façon de demander pardon. Pardon à Dieu et jamais aux victimes. On peut s'aimer sans toujours être d'accord, on peut s'aider même si on se connaît à peine. Si t'as des enfants, apprends-leur d'abord ce que t'aurais aimé, qu'à toi on t'enseigne. Parfois le temps de la justice est trop long, fais le bien sur terre avant de parler des cieux. Certaines croyances viennent tout droit des colons, tu peux faire le tri pour te rapprocher de Dieu. C'est pas si grave de faire des erreurs, ce qui est grave c'est de vouloir les ignorer. Le but c'est pas d'être la meilleure, le but c'est de chaque jour s'améliorer. Imane. T'es pas obligé d'être une fille banale, t'es pas obligé d'être Michelle Obama, t'es pas obligé de vouloir être mère, t'es pas obligé de vouloir être reine. N'écoute pas les hommes, n'écoute pas les ordres, n'écoute pas les codes qui disent de la merde. Apprends encore à aimer ton corps, à aimer tes formes, à t'aimer toi-même. On a nos valeurs et nos traditions. Si ton amoureux t'emmène en balade, dis-lui bien que c'est lui qui paiera l'addition. Dis-lui que c'est l'impôt sur le patriarcat. Tu m'idéalises, mais même ton daddy est paternaliste. Faut que tu me pardonnes, dites à ces messieurs. C'est bien prétentieux d'apprendre la vie à celle qui la donne. Imane. Parfois le bonheur a un goût amer, parfois t'es toute seule, surtout quand tu montes. Parfois pour être en paix avec toi-même, tu seras en guerre contre le reste du monde. Mais quoi que tu fasses, je serai toujours là, même dans l'au-delà, l'amour gagne à la fin. Que tu sois patronne, que tu sois daronne, que tu sois baronne ou les trois à la fois. Tu sais comment tes grand-mères étaient grandes, tu sais qu'elles nous mentent mais qu'elles nous répondent. Elles étaient braves, belles, élégantes, c'est pour ça que tu portes fier leur prénom. Tant que tu peux, il faut défier les lois, tant que tu peux, il faut défier les rois. Et si te demandent que ta foi représente, réponds simplement que Dieu est grande, Imane.
Youssoupha, Dieu est grand donc, excellent morceau, extrait du non moins excellent album Amour Suprême.
France Inter. Mehdi Maizi à la régulière.
Et ce soir, nous sommes avec Suzanne, qui vient de sortir l'album Millennium. Mais avant de parler de ton Millennium à toi, Suzanne, j'aimerais revenir sur un autre Millennium, celui qui a marqué une époque, et je crois que c'est aussi une de tes références. Millennium, c'est d'abord un titre de livre. Et quel livre ? Nous sommes en 2005. Un auteur suédois inconnu du grand public, Stieg Larsson, publie le premier tome d'une trilogie qu'il ne verra jamais triompher, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes. Un polar dense, politique, féministe avant l'heure, avec deux héros improbables. Le journaliste Mikael Blomkvist, un peu usé par la vie, et surtout Lisbeth Salander, hackeuse, géniale, tatouée, punk, asociale, blessée, mais brillante. Succès immédiat, des millions d'exemplaires vendus, traduits dans le monde entier, et surtout un mythe, celui d'une héroïne qui ne se tait pas, qui se bat contre le patriarcat, contre la violence, contre les institutions. Lisbeth Salander, c'est une forme de rage maîtrisée, une colère intelligente et pour beaucoup, une inspiration. Forcément, très vite, le cinéma s'en est emparé. D'abord avec une trilogie suédoise en 2009, portée par Noomi Rapace, puis en 2011, Hollywood tente le pari avec David Fincher, et là, tout change de dimension. Une mise en scène glaciale, millimétrée, Rooney Mara en Lisbeth Salander, androgyne, sauvage, fascinante, et Daniel Craig en journaliste dépassé. La BO assurée par Trent Reznor, là on est sur une reprise de Led Zeppelin. Donc moi j'avais adoré le film de Fincher qui malheureusement n'avait pas eu de suite. Peut-être qu'un jour ça arrivera, je ne sais pas. Est-ce que Millennium ça a été... J'ai vu une interview de toi où tu citais ça justement aussi comme une des références, même si je sais que le titre n'est pas uniquement dû à ça. Est-ce que ça t'a marqué aussi bien les livres que les films? Voilà, quel lien t'as avec cette œuvre-là?
Je pense qu'il y a un peu de tout ça, tu vois, cette trilogie, moi j'étais tombée sur le film plus jeune, ça m'avait okay. marqué, cette figure féminine qui se fait justice à elle-même, tu vois, tu l'as bien décrite. Donc il y a de ça, et il y a ce millénium, il y a surtout cette définition qui m'a appelée aussi, ça veut dire nouvelle ère commençant par une mutation, par un changement. Et je me suis dit, je crois qu'on est en plein dedans, ouais. Je crois qu'on a une époque, moi qui aime raconter mon époque, où on a envie de casser un peu les codes, où on a envie de se révolter, où on a envie de changer les choses qui ne fonctionnent pas. Voilà, mais oui, petit clin d'œil carrément à cette trilogie, au film.
T'as lu les livres ou t'as juste...
J'ai vu le film okay. avant de lire les livres, okay. ouais.
Moi j'avais lu le livre à l'époque et ça m'avait... Enfin c'était... Ça m'avait complètement happé en fait.
C'était vraiment... Ah oui, mais c'est costaud.
Ouais, exactement. Ouais. Est-ce que justement, ce que tu viens de parler de changer les choses, etc., t'as le sentiment d'être... Pardon pour cette question un peu... J'enfonce une porte ouverte, mais est-ce que tu as le sentiment d'être une artiste engagée?
Alors, il y a quelques années, quand je suis arrivée avec mon premier EP, où je parlais déjà de harcèlement féminin, etc., on me disait « t'es une artiste engagée ». Je ouais. crois que c'était la première fois que j'entendais ce mot accolé à moi. Moi, ça me semblait
alors
plutôt...
Alors que pour toi, c'est naturel, en fait. Tu ne l'as pas conscientisé, c'était
non,
juste...
Non, pas ouais. du tout. Je n'ai pas vraiment conscientisé. En fait, je me rends compte avec les années que ce qui me fait écrire, c'est souvent les... L'urgence, quoi, c'est ce que je vois dans le monde, c'est ce que j'arrive pas à comprendre. Donc ouais, souvent mes thèmes à la fin sont un petit peu engagés, je mets les guillemets, parce que c'est quoi l'engagement? Je crois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont beaucoup plus engagés que moi. Parfois je me demande, est-ce que ça suffit de faire des chansons? Est-ce qu'il n'y a pas un moment dans ma vie où j'irai peut-être mettre les mains encore un peu plus dans le cambouis? Je manifeste, je vais dehors, enfin je fais
oui,
aussi ma...
C'est pour ça que j'y sers, c'est parce que... On sait que tu fais des choses même en dehors
ouais,
de ta musique,
sûr,
tu es concerné par ces sujets-là.
Ouais. Ça aussi. Moi, je pense que ma génération l'est, ouais. et je crois même, je vais aller un peu plus loin, doit l'être. C'est un peu à nous de faire la suite, donc je crois qu'on doit être un petit peu concerné par tout ça. Et moi, en tout cas, si j'arrive à passer des messages en chansons, je pense particulièrement à la chanson « Je t'accuse » sur cet album, où je m'adresse directement à la justice française, où je pense qu'elle a parlé à beaucoup de femmes, mais d'hommes aussi, des enfants. Bon, c'est un peu terrible de dire ça, mais je pense que c'est une chanson politique qui trouvera peut-être pas sa place dans tous les médias, mais en attendant, qui trouve sa place peut-être chez le public.
C'est une chanson où tu parles notamment des violences sexuelles et sexistes. Ouais, c'était ouais. Le premier extrait de ton album, le premier clip, ouais. donc qui a aussi beaucoup, beaucoup fait parler. Et c'est vrai que, alors évidemment, c'est un sujet qui n'est pas nouveau, mais j'ai aussi ce sentiment-là, tu m'arrêtes si je me trompe, qu'il est peut-être... que davantage de personnes s'en emparent, en parlent, en tout cas des artistes en parlent beaucoup, toi t'en fais partie. T'as le sentiment aussi que c'est, tu dis c'est un devoir, on doit l'être, c'est mmh. votre rôle, c'est le rôle aussi des artistes d'alerter les gens, en tout cas peut-être de mettre la justice face à ces contradictions, face à ces erreurs.
Moi je pense que c'est pas notre rôle à la base, quand j'écris Je t'accuse, moi je le fais avec mon intime. J'ai besoin de le faire dans ma vie de femme, au départ c'est entre quatre murs avec un piano. Je pense pas à toute la suite de la chanson, est-ce que je vais la sortir, la partager, la clipper, avec qui, comment, enfin au début ça se passe pas comme ça. Je pense que ça part toujours d'une révolte intérieure, peut-être individuelle, qui devient ensuite, peut-être ou pas, collective. Mais à la base, moi, ça partait vraiment d'un sentiment ouais. et d'un truc individuel.
Est-ce que c'est forcément la révolte qui te fait écrire?
Souvent, hein.
Est-ce que tu arrives à écrire de parce que l'album, c'est ce que je disais dans l'introduction, il est quand même assez sombre, assez dur dans les thèmes, hormis le dernier morceau, qui est une forme de lueur d'espoir.
D'ode, ouais.
Mais le reste de l'album est dur, donc je me suis dit, Et bon, ce qui n'est pas choquant vu tout ce qui se passe hein, autour de nous, mais est-ce que c'est ça qui te motive ?
Je pense que la colère me nourrit beaucoup quand même. La colère, l'incompréhension. Je pense pas que... Alors l'album, il est noir parce que je dis souvent que je suis une conteuse d'histoires vraies, tu vois. Donc j'ai tendance à être une chanteuse réaliste peut-être. Je dis pas que le monde n'est que noir. Et je crois que l'album n'est pas si plombant. Il y a quand même un truc où je raconte le noir, mais avec l'espoir que ça aille mieux. Il y a quand même ce truc un peu de la meuf où tu te demandes si elle est pessimiste ou un peu utopiste, quoi. Mais je crois que je suis plus utopiste que pessimiste à la fin, parce que sinon j'écrirais pas de chansons si je pensais que c'était vraiment voilà, c'est cuit quoi. Donc non, j'ai tendance à penser qu'on peut changer le monde, peut-être pas avec un seul album, ça c'est clair, mais je crois que la musique, t'as introduit l'émission en disant que c'était une arme douce, la musique. Je suis assez d'accord. Et je pense que si on est nombreux à faire des armes douces, on peut peut-être se battre contre ceux qui ont des vraies armes et qui divisent tout le monde.
Alors cet album, je ne sais pas s'il va changer le monde, mais il s'appelle Millennium et il vient de sortir. Et sur cet album, il y a un morceau qui s'appelle Un sens à tout ça. Est-ce que tu as trouvé du sens ? Est-ce que c'est le combat d'une vie, ça ? Ou est-ce que ça y est, tu as réussi quand même à trouver du sens à ta vie, à ce que tu fais au quotidien ?
Je pense que je ne suis pas la première humaine à me demander ce que je fous là.
Évidemment. C'est mon cas, c'est pour ça que j'attends une réponse qui peut donner du sens à la mienne de vie, Suzanne.
Non, mais je pense que la réponse, on ne la trouve pas vraiment, et c'est ça la beauté de la vie. On se pose des questions auxquelles on ne peut pas répondre, et d'ailleurs, cette chanson n'est faite que de questions. C'est des questions qui me taraudent, je pense, comme beaucoup de monde. C'est peut-être une génération entière aussi qui cherche cette quête de sens.
Peut-être qu'elle se pose plus la question que les générations précédentes, peut-être.
C'est ça. Qu'est-ce qu'on fout là ? Qu'est-ce qu'on doit faire de mieux, peut-être aussi ? Avant, il y avait quand même ce truc d'unique plaisir de la vie, quoi. Faut kiffer. Faut kiffer, juste kiffer.
Ouais.
Je crois qu'aujourd'hui, on prend conscience qu'il n'y a pas juste faut kiffer. Il y a un peu les autres autour, il n'y a pas que nos frontières, il y a ailleurs. Enfin, je pense qu'on a peut-être plus... de recul sur nous-mêmes aussi. Est-ce que c'est les téléphones ? Est-ce que c'est le fait qu'on voit aussi ce qui se passe, quoi ? Donc aujourd'hui, juste kiffer la vie, ça ne suffit pas. On se pose peut-être plus de questions. On vit peut-être avec un peu moins d'insouciance aussi, je crois. Mais mes parents me disent souvent « Oh, votre génération, vous êtes déprimés, quoi ». Mais ouais, mais peut-être que la vôtre l'était moins parce que vous posiez un peu moins de
peut-être
questions.
Qu'elle l'était pas assez.
L'était pas assez, ou du moins vous étiez peut-être dans un moment où on ne constatait pas les dégâts. Nous, on est plutôt dans un truc où on nous a vendu un monde qui allait être merveilleux, où on allait trouver du travail, où on allait trouver une maison, etc. assez vite, avant 30 ans. Que dalle. Il n'y a pas tout ça. Donc, on est quand même dans un truc où on paye un peu les pots cassés. On arrive en lendemain de fête, tu vois, un peu... bon, OK, c'est moins sympa qu'avant, quoi. Faut dire ce qu'il y a.
T'as parlé de lendemain de fête. D'ailleurs, il y a un morceau qui s'appelle comme ça, lendemain de fête, qui m'a un peu fait penser aussi au titre de l'album La fête est finie, de Orelsan, qui est un album important ces dernières années. Mais une des influences, on le sait, c'est l'album Dans ma bulle de Diams. Il y a comme un goût de foulec chez les mots. Comme un goût de boulette sur les ondes. C'est drôle parce que la semaine dernière, on recevait Nelly Kiffy, je crois que c'est lui qui me parlait de ce morceau aussi, qui était un morceau important pour lui, qui est un morceau important pour beaucoup de personnes qui l'ont écouté. Qu'est-ce que reprend Diams ? Parce que Diams aussi, elle avait ce côté-là. Tu sais, on pouvait même parfois dire c'est du rap un peu dépressif, elle est triste finalement, elle est un peu ennuyeuse, alors que même elle avait ses critiques-là à l'époque, s'il a pas empêché de toucher énormément de monde, mais mine de rien, elle avait aussi ce côté-là, ce côté évidemment engagé, c'était une artiste consciente, comme on dit dans le rap, il y avait le rap conscient, c'était une des égéries du rap conscient. Je sais qu'elle était importante pour toi, qu'est-ce qui t'a autant marqué chez elle ?
Écoute, Diams, elle est rentrée par le mur de la chambre de ma sœur à l'époque, qui écoutait Skyrock.
Ouais. Oui, t'as le droit.
Ah, pardon.
On t'invitera plus, c'est tout.
Non, mais voilà, c'est... Elle est rentrée par là, dans ma vie. C'est d'abord ma sœur qui l'écoute. Et puis, en fait, je me dis, mais elle s'adresse aux meufs, cette meuf-là. Tu vois, j'ai 15-16 ans... En fait, elle tombe pile poil, quoi.
Elle parlait aussi de violence sexuelle.
Elle parle de violence par amour, qui est dans cet album-là. C'est une chanson incroyable, mais en même temps, en plus d'être incroyable, pardon, elle, c'est une chanson de prévention, tu vois. Nous, à cet âge-là, les copines, on vit nos premiers amours. Parfois, tu tombes sur des mecs où c'est pas... c'est pas top. Et il y a des nanas, dès le plus jeune âge, elles s'enferment dans des relations toxiques. Bref, il y a Diams qui passe par là pour parler de ces choses-là et qui a un regard sur le monde aussi. Donc bref, Diams, elle me parle en direct, tu vois. Genre, c'est une copine qui vient me parler et je pense que depuis... y a toujours cette nostalgie d'écouter Diams et d'avoir presque envie de savoir ce qu'elle dirait aujourd'hui.
Ouais, complètement.
Grande sœur, quoi, en quelque sorte.
Sur l'album, t'as une phrase, tu dis « J'aime parler féminisme avec une meute de mâle alpha ».
Ouais.
Comment ça se passe, ces moments ?
Kiffant.
Tu vis des moments comme ça ? Ça t'arrive régulièrement ?
Ça peut arriver, ouais. Déjà chez moi. J'ai des frères, j'ai un père, qui peuvent être un peu alpha sur certains sujets. Et donc, j'ai toujours eu l'impression... ils m'en voudront pas parce qu'ils savent que c'est vrai. Le patriarcat chez moi, il est assis à table, quoi. Donc les filles se lèvent, les gars restent assis. on est quand même sur ce genre de bail, quoi. Donc, je me suis toujours un peu bagarrée avec ça. J'ai jamais trop compris pourquoi moi je me lève et pas mon frère. Ces questions-là sont arrivées quand même très tôt dans ma vie. Et puis évidemment, quand j'écris des chansons féministes, tu te doutes bien que il y a quand même quelques gars parfois qui viennent me demander pourquoi, comment ou... Et voilà, mais c'est intéressant. Et puis la mode de mâle alpha, je pense qu'elle peut évoluer aussi, tu vois.
Oui, parce justement, c'était ma question. Est-ce que tu arrives à les faire évoluer sur des sujets ?
Écoute, anecdote très récente, je suis avec Grand Corps Malade dans un événement caritatif. Bon, bref, et Walidia est en train de faire des blagues. Et il demande à la salle, par applause, qui est féministe ? Et qui je vois pas assis à côté de moi ? Mon père. Mais j'ai dinguerie. Okay. Et un peu, en même temps, un peu, tu sais, un petit peu, est-ce que je peux faire ça ? Mais oui, papa, parce que féminisme est égal égalité, donc n'aie pas peur, hein, tu peux y aller, ça va bien se passer. Mais ça m'a fait plaisir parce que je me dis, tu vois, il a 64 ans.
Il aurait pas applaudi il y a quelques années.
Pas du tout. Ouais. Pas du tout, il aurait été un peu gêné, genre le féminisme, c'est quoi ? C'est les autres meufs avec les seins à l'air. Il était vraiment dans le cliché, quoi, tu vois.
Ouais.
Comme quoi, le mot féminisme aujourd'hui fait encore peur. On nous demande encore, est-ce que vous êtes féministe ? Et tu dis, oui, non, oui. Et ce mot-là, il doit pas faire peur. Et voilà, donc comme quoi les choses évoluent, les gens évoluent. Et les meutes de mâle alpha ont souvent des femmes, des filles aussi, ça arrive, des mères.
Bien sûr.
Ça, évidemment. Donc je pense que les mentalités changent à force d'échanger.
Tu as cité Grand Corps Malade, vous aviez collaboré, notamment sur le morceau, pendant 24 heures.
Je mettrai la main au cul à un pote un peu lourd, pour qu'il comprenne enfin que c'est pas très glamour. Je pourrais prendre tout mon temps, pas d'horloge biologique. Si je veux pas d'enfant, personne n'en fera tout un cirque.
Je testerai tout de suite ces petites galères au féminin, l'épilation, le maquillage, perdre ses clés dans le sac à main, les talons hauts, le vernis à ongles et les rappels mensuels du corps. D'être une femme, je veux découvrir l'enfer du décor.
Je pourrais ne plus me raser, personne dira que c'est dégueu. J'aurais plus mal au ventre, gna gna de mes deux.
Comment c'était cette collaboration avec Grand Corps Malade ?
C'était super, c'était le premier à me faire confiance, tu vois. Ça fait plaisir, Grand Corps Malade, je l'écoutais à l'époque, tu vois. C'est quand même un gars qui est là depuis très longtemps, qui tient dans le temps, qui a toujours des choses à dire, des belles choses à dire. Donc voilà, grand par la gentillesse, par le talent, j'ai appris à ses côtés. Donc chouette, tu vois, on se recroise encore. C'est un bon grand frère dans ce milieu, Grand Corps Malade. Tu vois, c'est quelqu'un avec qui je me sens à l'aise et cool, quoi. Ça fait plaisir d'avoir ce genre de rencontre.
Suzanne, je te propose qu'on en arrive au live.
Allons-y.
Car tu es venue avec la promesse de nous chanter un morceau extrait de cet album, Viril.
Exactement.
Comment tu présenterais ce morceau Viril, qui a l'air aussi assez autobiographique ?
Complètement. Je l'écris en jeu, Viril avec un E, parce que je me pose cette question un jour de qu'est-ce que la virilité, vraiment ? Et je vais sur Internet, je regarde la définition de viril, et c'est puissant, courageux, fort. Je me dis, c'est bizarre que ce ne soit pas attribué aussi aux femmes. Ouais. Quel est le pendant de viril pour une femme ? Pourquoi on ne nous l'attribue pas aussi ? Parce que moi, toutes les femmes que je connais autour de moi, mine de rien, elles sont assez puissantes, fortes, et on sait ce que vivent les femmes parfois dans leur vie, qu'elles soient ici ou ailleurs. Il me semble que cet adjectif peut nous être attribué. Donc, je me suis permise de rajouter un E et de chanter cette chanson pour dire en gros que toutes les femmes sont uniques et peuvent être le meilleur modèle d'elles-mêmes sans qu'elles soient forcément enfermées par des diktats et des injonctions constantes.
Eh bien, on va t'écouter.
Tadam !
On va t'écouter maintenant, en live, Suzanne Viril pour À la Régulière.
Paraît que je suis forte comme un garçon, que je me bagarre comme un garçon, que j'ai l'air manqué comme un garçon. On dit que j'en ai dans le pantalon, mais moi je suis forte comme une fille. Je sais me battre comme une fille, j'ai la tête haute comme les autres filles. paraît que je marche comme un garçon, que je dirige, que je suis pas sage quand je me force à sourire. Mais on m'écoute pas comme une fille, on me reluque comme une fille, on m'explique tout, on m'explique même le mansplaining. Et si je dessine une case à ma manière, avec quelques traits de travers, quelle importance si j'ai l'air viril? Je me sape comme un garçon, que j'ai de la poigne comme un patron. Je pars à la guerre, je défends mon frère, je fais des affaires comme un garçon. Mais moi je bosse comme une fille, je suis patronne comme une fille. Je défends mes droits, je peux les perdre comme les autres filles. C'est pas mon genre comme un garçon de me laisser faire. Comme une fille, on m'a appris de toujours me taire. Prends pas trop tard comme une fille, change de trottoir comme une fille. Marche plus vite comme les autres filles. Et si je dessine une case à ma manière, avec quelques traits de travers, quelle importance si j'ai l'air viril? Une fille virile, une fille virile.
C'était Suzanne avec Viril au piano, Louise Dissous, morceau extrait de son album Millennium.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Suzanne, nous sommes ensemble et je pense que tu as suivi l'actualité. Ici, on parle que d'actualité culturelle, même si l'actualité était assez triste, car ce week-end, le cinéma a perdu une de ses figures les plus cool, Diane Keaton, parce que oui, elle était profondément cool, s'est éteinte à 79 ans, et franchement, c'est un pan entier du cinéma américain qui s'en va, et notamment son fameux chapeau, ses gants, ses pantalons trop larges et son humour pince sans rire, un outfit mythique présent dans Annie Hall.
Oh, God, Annie. Well, oh well. La-di-da, la-di-da, la-la, yeah.
Rien qu'à cette phrase, tout est là, le charme bizarre, la maladresse élégante, la légèreté mélancolique. Diane Keaton, c'était ça, une héroïne de Woody Allen qui a traversé l'écran et la vie avec une grâce un peu bancale, mais inimitable. Quand Annie Hall sort en 77, le cinéma américain est en pleine mutation et Diane, elle, arrive avec son look d'androgyne joyeuse, chemise d'homme, cravate, pantalon oversize, une tenue improvisée par elle-même qui deviendra carrément iconique. Annie Hall, c'est l'anti-femme fatale, la fille brillante, mais un peu gauche.
Seems like old times.
Elle a fait du désarroi un art, de la bizarrerie une élégance, et au passage, elle a gagné un Oscar. Mais Diane Keaton, c'est aussi Kay Adams. La seule lueur morale dans Le Parrain. Face à Al Pacino, elle incarne la normalité, l'amour, la conscience, celle qui voit Michael Corleone devenir un monstre de pouvoir. C'est elle qui rappelle que la mafia, c'est pas juste des mecs bien habillés qui fument des cigares, et même si elle disparaît souvent de l'écran, sa présence pèse toujours. Quand on lui claque la porte au nez à la fin du premier film, ce n'est pas juste une porte qui claque, mais tout un idéal qui s'envole. Mais on ne saurait résumer Diane Keaton à ces deux rôles. Impossible de ne pas parler de son duo avec Jack Nicholson dans Tout peut arriver en 2003. Vrai film fun dans lequel deux légendes du cinéma hollywoodien s'amusent tout le long. une comédie romantique comme on n'en fait plus, devenue manifeste du mature crush. Ces histoires d'amour entre deux personnes mûres si peu représentées au grand écran. Diane Keaton, c'était aussi une réalisatrice avec Heaven en 87, une photographe ou encore une passionnée d'architecture. Elle a toujours cultivé une vraie indépendance, au travail comme dans le privé, où elle n'a jamais été mariée. Et c'est sûrement pour ça qu'elle a marqué autant de générations. Des actrices comme Greta Gerwig, Emma Stone ou Kristen Wiig lui doivent beaucoup. Elle a prouvé qu'on pouvait être drôle sans être cynique, élégante sans être lisse, puissante, sans être forcément dominante. Alors oui, Diane Keaton nous quitte, mais quelque part elle reste dans tous ces personnages qui n'essaient pas d'être parfaits. Impossible d'être exhaustif, mais nous devons de citer son interprétation dans Reds de Warren Beatty en 81, vrai chef-d'œuvre où elle est une nouvelle fois parfaite. On dit au revoir à Diane Keaton, qu'elle puisse reposer en paix, et nous, on va se refaire sa filmographie. Suzanne, on va parler de toi, parce que c'est aussi le sujet de cette émission. Millennium, ton troisième album qui est disponible, et je propose qu'on découvre un peu la BO de ta vie. Je vais te poser des questions, tu vas me dire quels morceaux correspondent à ces situations, et peut-être que notre réalisateur va réussir à trouver les morceaux en temps réel, j'y mets la pression, car il fait de temps en temps. Suzanne, le premier souvenir musical que tu as, celui qui te ramène directement en enfance?
Directement en enfance?
L'enfance, hein, pas l'adolescence.
L'enfance, hein?
Ouais.
Désenchanté, Farmer.
Mylène Farmer, ouais. Ça reste, c'est aussi une de tes...
Franchement, c'est chouette. Ouais. Hit Machine, la télé, ouais. Mes parents qui écoutent Mylène Farmer, la maison. Ouais, c'est une des rares artistes à être écoutée dans la maison, donc Mylène, à fond.
Mylène, évidemment, c'est une artiste bien sûr talentueuse, mais il y avait aussi l'aspect visuel, les clips avec Laurent Boutonnat, réalisateur. Est-ce que ça aussi, ça a été marquant pour toi? C'est parce que c'était presque des films à l'époque, à une époque où les clips n'étaient pas encore autant populaires qu'aujourd'hui.
Puis on en consommait beaucoup des clips à la télé, ouais, à l'époque. Enfin, moi, je sais que j'adorais qu'on m'allume la télé, que les clips passent et les regarder des heures, quoi. Donc ouais, Mylène, elle est passée dans ma télé avec le visuel, le son. Enfin, tu vois, j'ai eu l'univers complet. Donc c'était fabuleux et oui, ça m'a évidemment marqué.
Tu as grandi avec... Ah pardon, on a un extrait, très bien. Ouais, Gaëtan Collier, il est très fort, hein. En temps réel, attention, hein, c'est un professionnel. Tu as grandi avec la danse avant la chanson. Le morceau parfait pour exprimer tes talents de danseuse.
Oh, c'est dur là ce que tu me poses, parce que mes talents de danseuse, à la base, j'ai fait beaucoup de danse classique, donc ouais. Tchaïkovski, comment te dire,
c'est plus trop ça aujourd'hui.
Truc. Non, non, enfin, j'essaie de temps en temps.
En soirée,
je danse encore. En soirée, je suis une meuf timide, du style, je suis un peu là sur le côté, enfin, tu devinerais pas que je monte sur scène, quoi. Okay. Non, non, c'est pas. Ou sinon, je danse trop. Donc en fait, je passe du pas assez à c'est trop, et les gens se disent ah non, là c'est un peu trop. Okay. Donc ils s'éloignent et après c'est fini. Bon, bref. Donc je danse encore évidemment beaucoup sur scène. Moi j'aime bien danser sur de la grosse électro. Ouais. C'est ça qui m'a réveillé l'envie. Tu vois, j'ai quitté la danse, j'avais 17 ans. Le classique, la rigueur, la pesée du mercredi, il y a eu un moment où ça a été un peu compliqué. J'ai perdu un ami d'une rupture, ouais, d'anévrisme à ce moment-là. Donc ça a éclaté vraiment mon rêve de devenir danseuse comme Aurélie Dupont. À 17 ans, ça s'est terminé. Je me suis retrouvée du jour au lendemain à décrocher scolairement, à plus avoir envie de danser. Bon, c'était une période pas dingue à vivre. Mais mine de rien, qui m'a nourrie pour aujourd'hui. Je pars dans des clubs danser pour le coup. Et j'entends Daft Punk, j'entends Justice, j'entends Cassius. Enfin, là, je retrouve l'envie de danser, donc sur du boum boum, sur des sols un peu collants. Et en même temps, c'est ce qui m'a réveillé l'envie, donc tant mieux, parce que je l'avais, ouais, vraiment perdu.
C'est vrai qu'on a parlé un peu du rap tout à l'heure, la chanson française, mais l'électro, c'est une énorme influence dans ta musique. D'ailleurs, on l'entend encore, notamment sur cet album-là.
Ouais,
le
vrai.
Deuxième était peut-être un peu plus pop,
plus
peut-être.
Calme, ouais, exactement. Ouais, exactement.
Là, la musique électronique, c'est quand même, ça fait partie entièrement de ton ADN, quoi.
Je suis revenue à mes premiers amours, à ma, ouais, première essence, parce que tu vois, la musique que tu fais comme ça instinctivement sur le premier album, je crois qu'il faut la retenir, et des premiers ingrédients. Et je crois que c'est ces ingrédients-là, une fois transposés sur scène, parce que tu vois, déjà dans le studio, j'ai envie d'une énergie un peu physique, mais sur scène, ça trompe pas, quoi. T'as rien avec tes morceaux, notamment en festival, tu vois, il y a des gens qui me connaissent, il y a plein de gens qui me connaissent pas.
Bien sûr.
Faut les attraper.
Aller les chercher,
et,
ouais.
Et j'avoue que, ouais, je pense que ça me définit plus des instrus plus électro, avec des gros beats et costauds, comme on disait en début, ouais, quoi. Ouais.
Un morceau que tu aurais aimé avoir écrit? chanson de quelqu'un d'autre que tu trouves particulièrement bien écrite et que t'es un peu jalouse de ce morceau?
Ouais, je suis pas jalouse, mais j'avoue que c'est un gros niveau qui peut-être sera inatteignable, mais je pense à Diams encore, la
c'est
boulette.
C'est vraiment elle, hein. C'est
bah,
vraiment,
ouais. Enfin, franchement, oui, sur les artistes féminines qui sont là depuis longtemps dans ma vie et qui, je parle vraiment d'écriture, hein, sont allées aussi loin, c'est elle, hein, pour moi.
Ouais.
Donc, en tout cas, si je devais avoir un prof de français qui regarde sur mon épaule ce que j'écris, ce serait Diams, du coup.
Okay.
Comme ça, il y a une exigence un peu haute.
Et ouais. On peut écouter Marine.
Marine, tu sais, ce soir, ça va mal. J'ai trop de choses sur le cœur, donc il faudrait que l'on parle, Marine. Si je m'adresse à toi ce soir, c'est que t'y es pour quelque chose. T'as tout fait pour que ça foire, Marine. Dans le pays de Marianne, y'a l'amour, y'a la guerre, mais aussi le mariage, Marine. Pourquoi tu perpétues les traditions? Sais-tu qu'on sera des millions à payer l'addition?
Ça, c'était un morceau qui était évidemment adressé à Marine Le Pen à l'époque, à une époque qui semble lointaine, où le Front National à l'époque n'avait pas la même place. Dans les débats, même si déjà il était important. Est-ce que tu considères que toi aussi c'est ton rôle de t'exprimer sur la politique? Parce que tu le fais un petit peu dans ta musique. En tout cas, on sait où tu te situes. Tu ne donnes pas de consigne de vote, mais en tout cas, on sait clairement où tu te situes.
Oui, je pense.
C'est naturel aussi ça pour toi, ou c'est important? Est-ce que c'est un devoir aussi pour une artiste aujourd'hui?
Est-ce que ça l'est pour tous? Non, mais en tout cas, pour moi, ça paraît quand même assez essentiel.
Ouais.
De transmettre des valeurs, parce que je pense que c'est ça aussi la politique, c'est aller chercher des valeurs, c'est aller... dénoncer aussi, donc comme Diams le fait à l'époque, elle rassemble aussi, parce que le Front National, il rassemble aussi, donc il faut bien qu'il y ait des gens qui en face puissent prendre les armes aussi. Elle le fait à sa manière en chanson. Si je peux faire partie des artistes qui sont contre l'extrême droite, oui, je pense que j'assume cette position-là, et tant pis si j'en paye un peu les pots cassés parfois, mais je pense que dans mon public, il y a pas beaucoup de gens qui votent FN, j'espère.
Ou alors c'est qu'ils t'écoutent
ou
pas.
Sinon c'est qu'ils m'écoutent pas vraiment et que du coup c'est un peu embêtant, ouais.
Ce week-end j'entendais Zao de Sagazan justement dans la matinale de France Inter qui expliquait que pour elle tout était politique, que l'art était politique, qu'il fallait arrêter de dire justement qu'on était là uniquement pour divertir les gens, qu'on était artiste, que ce que fait un artiste c'est forcément politique. T'es d'accord avec ça?
Je suis quand même assez d'accord avec ça. Je crois que quand on entend constamment un artiste est là pour divertir, je suis pas vraiment d'accord. Il est là pour dénoncer, il est là pour rassembler, il est là pour pointer du doigt, il est là pour secouer. L'art ne sert pas qu'à divertir. Donc je rejoins Zao là-dessus. Je pense que tout est politique aujourd'hui, même ce qu'on consomme, ce qu'on mange, tout ce qu'on fait aujourd'hui, il est un petit peu nous, peut-être encore un chouï plus parce qu'on a une parole qui est entendue. Mais du coup, raison de plus d'aller chercher des sujets où c'est pas que divertissant.
Je te propose qu'on écoute un morceau de Wolf Alice, un de ces groupes qui semble toujours marcher sur le fil entre la douceur et la tempête. Depuis leur début à Londres, ils ont fait de cette tension une signature du rock alternatif, mais plein de poésie, de maladresse, de vérité. On écoute leur morceau Just Two Girls, une conversation sur le matérialisme, lui préférant les moments simples d'amitié.
I'm
C'était Alice Wolf, Wolf Alice, c'est ça le nom, avec Just Two Girls.
Mehdi Maizi sur France Inter.
Nous sommes avec Suzanne Seller de l'heure des recommandations. Tu m'en as donné plusieurs. Alors, l'album que tu m'as donné, c'est Dans ma bulle de Diams, mais on a déjà parlé de Diams, même si on pourrait consacrer une émission entière à Diams, mais c'est pas le sujet. Par contre, tu m'as parlé d'une série, The White Lotus. Ça, c'est le générique de la saison 1. Qu'est-ce qui te plaît autant dans White Lotus ?
Le cynisme de cette série, les scénarios sont dingues, la réal. Enfin, je me suis retrouvée dans ce truc un peu, tu vois, de regard un peu extérieur qui va aller critiquer la société américaine. Ouais. Je trouve qu'ils le font de façon très drôle, avec beaucoup d'humour. J'ai aimé cette série, même la BO, tu vois, elle te met un peu en transe. J'aime bien, je trouve que c'est de la bonne musique.
Oui, t'as mis deux casques.
J'ai mis deux casques. Une fois, je me disais, pourquoi j'entends pas dans celui-là. Donc ouais, je trouve que la BO est très cool et je sais pas, en tout cas, ça m'a tenu sur 3 saisons. Ouais. Donc, je me dis que quand même, c'est bien foutu, quoi. Donc The White Lotus, ouais.
Moi, j'ai une question parce que j'ai regardé la saison 1.
Ouais.
Je me suis terriblement ennuyé. Voilà,
merde.
Alors, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est mieux après? Ou si j'ai pas aimé la 1, je m'arrête là et on passe à autre chose et voilà.
Franchement, si t'as pas aimé la une, non, zap, tant
pis.
En plus, la deux est moins bonne, donc, donc laisse tomber. Bon,
voilà. Merci. Au moins, t'es honnête. Ouais. Très bien. Une recommandation de livre, La nuit au cœur, de Natasha Apana. Qu'est-ce qui t'a autant marqué?
Écoute, je suis en plein dedans. Je l'ai pas terminé.
C'est un livre du moment.
C'est un livre du moment. On lui souhaite de choper le prix Goncourt.
Ouais.
C'est un livre qui parle de 3 femmes qui sont victimes de violences conjugales. Je pense que c'est pas le livre le plus fun à lire avant d'aller se coucher. Faut dire ce qui est. Mais je pense que c'est un livre important. Natacha, elle a une très belle plume. Je pense qu'elle est, elle a une manière de raconter ses histoires qui est assez immersive. Donc voilà, c'est prenant comme livre. Hein. C'est une lecture qui est pas évidente, mais je recommande quand même ce livre parce qu'il est important.
Est-ce que tu lis beaucoup? Est-ce que tu arrives à lire encore beaucoup aujourd'hui ou tu te fais happer par les séries, les téléphones, comme tout le monde? Ou non, est-ce que tu te disciplines là-dessus?
Alors, mon temps d'écran est beaucoup trop grand.
C'est combien?
Franchement, j'abuse. Là, on est sur un bon 6-7 heures.
Ouais, franchement, la classique.
La classique, mais ça fait peur quand vraiment l'écran te dit. C'est ton temps d'écran. Je pense que je pourrais plus lire du coup, mais quand même, quand je fais de la musique, bizarrement, j'écoute pas de musique, pas trop. Mais par contre, je lis.
Okay.
Je lis pas mal, donc j'aime bien avoir des livres de chevet. C'est pas pour autant que je les finis tous, mais j'aime bien quand même être un peu stimulée sur lire autre chose que ce que j'écris moi, quoi.
Ok.
Voilà, donc ça peut arriver. Donc je suis en plein Natacha là pour le moment.
Est-ce que tu arrives à écouter les albums en entier aujourd'hui, les albums d'autres personnes?
Il y a certains artistes où je vais l'écouter entièrement. Beaucoup ceux qui ont des choses à dire. Je pense qu'il y a 2 teams. Il y en a qui vont se raccrocher à de la mélo. Il y en a qui vont vraiment se raccrocher à des textes. Je pense que je suis plus la team texte. Donc, admettons, si je dois écouter un album en entier, il y a Aurel San, que je peux écouter en entier. Et je vais même sûrement réécouter. Tu vois, il y a ce truc un peu... le gars fait un peu la messe à sa façon, quoi. Enfin, tu vois, il fait un peu le... Donc ça, je peux écouter, Diams, pareil, des albums entiers. Donc je pense que c'est plus dans ce rap un peu conscient, tout à l'heure quand même, où je peux être happé par un album entier, ouais.
Est-ce que finalement, Aurel San, c'est pas un artiste qui te suit depuis le début de ta carrière? Puisque t'avais écrit un morceau en réponse à son fameux morceau « Sale pute » quand t'étais jeune, il y a le lendemain de fête, la fête est finie. Est-ce que finalement, il n'y a pas quelque chose, j'ai l'impression qu'il est un peu là?
Ouais, je pense qu'il est toujours un peu là. Je pense que c'est un des premiers rappeurs. Bah, là, je crois que la première fois que je l'entends, c'est avec Sale pute et je l'aime pas. Je me dis, c'est quoi ce gars? Alors, je réponds pas vraiment. Je pense que. Je sais pas dans quelle interview j'ai dit ça, mais je lui réponds pas concrètement. Mais en tout cas, il me déclenche l'envie d'écrire, tu vois, de dire, ah, bah, moi, je peux être une meuf et je peux aussi peut-être écrire des chansons. J'aime sa manière de décrire la classe moyenne aussi. Je le vois, j'ai à peu près 16 ans, il passe vers Avignon dans un petit village, à Montfavet. Il a le crâne rasé. Je crois que c'est son 2e album. Non, même pas, parce que Perdu d'avance. On est sur Perdu d'avance, parce qu'il a le crâne rasé, donc c'est même pas le chant des sirènes. Et je le vois sur scène et tout, et je pense que j'aime son énergie, son écriture, ce côté un peu, je dis les choses très frontalement. Je pense que c'est ça qui me plaît chez Aurel San, très précisément.
Eh bien, écoute, Suzanne, ça tombe bien, car c'est l'heure de la question qui tue.
Ah.
Si Suzanne, si tu devais faire un album commun avec un artiste, est-ce que tu choisis Aurel San, Stromae ou les Daft Punk?
Ah ah. Les Daft.
Les Daft?
Ouais.
Pourquoi?
Les Daft, pourquoi Parce qu'ils sont trop forts sur les instrus, donc comme ça j'aurais plus de place pour m'exprimer.
Ouais, ils produiraient ton... Ils un peu produiraient... comme ils ont fait avec The Weeknd,
ouais,
en fait.
Ouais, c'est ça. Tu vois, ouais. Je prends toute ma place, comme ça personne me compare, déjà. et puis je pense que les feats qu'on rêve le plus, je suis pas sûre qu'il faut les faire.
Ah, tu penses ça?
Ouais. Je pense que c'est bien de garder un peu de fantasme, un peu de... Bah, ça aurait pu, mais non, tu vois. Voilà, en fait, je...
Tu penses qu'il faut faire des feats avec des gens qu'on n'aime pas?
Non, je pense pas. Mais pas des gens que... tu vois, demain, je sais pas, je fais un feat avec Aurel San. Est-ce que ce que raconte Aurel San est ce que je raconte moi, déjà, est-ce que ça on peut parler ensemble tous les deux, tu vois? Est-ce qu'il y aurait une cohérence à ça? Parce que je peux aimer sa musique, mais autant nos deux musiques ensemble, ça fait un mauvais bébé, hein. On sait pas, hein.
On sait pas.
Stromae, et je pense que j'ai à apprendre de tous ces artistes. Je pense qu'à chaque feat, à chaque échange que tu as avec d'autres artistes, t'apprends. Mais j'avoue, pour le côté un peu classe de l'international, des deux robots derrière, je vois la pochette, tu vois. Ouais, je me dis, bon, quand même, la pochette peut être vraiment dingue.
Bon, on choisit les Daft, alors.
Allez.
Très bien. Merci beaucoup, Suzanne. C'était un plaisir de t'avoir. Vraiment, rappelle que l'album Millennium est disponible. Vous pouvez aller l'écouter. La tournée commence en novembre dans toute la France avec une dernière date au Zénith de Paris le 21 mars 2026. Merci beaucoup. Et merci aux personnes qui ont préparé cette émission. Alexia Lacour, Redouane Tella. Une émission réalisée par Gaëtan Colli. Programmation musicale signée Jean-Baptiste Audibert. À la technique, c'était Gaspard Guy Bourget et Maxime Godard. Merci aux équipes web et vidéo. On se retrouve demain avec Gilles Lelouch pour Chien 51 pour découvrir redécouvrir nos émissions, abonnez-vous sur l'application Radio France. Merci.